Le goût de penser, présenté par Jérémy Raffet sur Web Radio.
Et si nous avions dissous la réalité ? Nous avons déjà précisé ce qui différenciait le subjectif de l'objectif. Nous avons montré, grâce à Platon, comment le relativisme de Protagoras ne suffisait pas à décrire la réalité et à permettre l'existence de sciences. Et nous nous sommes étonnés sur le subjectivisme ambiant, alors que les technologies que nous utilisons sont toutes issues de lois objectives des sciences humaines, c'est-à-dire des sciences qui nous prennent nous-mêmes pour objet et définissent les lois de nos comportements. Nous retrouvons ces enjeux lorsque nous nous intéressons à notre consommation d'écran. Il est fort à parier que la vie humaine n'ait jamais aussi rapidement changé que depuis l'arrivée d'Internet et du numérique dans nos vies. Nos comportements, nos emplois du temps, nos habitudes, nos regards sur le monde ont radicalement changé. En France, nous consacrons en moyenne 5 heures par jour aux écrans. Cela signifie que nous faisons un cinquième de notre temps une activité qu'il était impossible de faire il y a plus de 50 ans pour la bonne et simple raison qu'elle n'existait pas. D'ailleurs, nous serions bien en peine de dire ce que pouvaient bien faire nos aïeuls durant ces 5 heures. Ils pouvaient peut-être dormir plus, lire, ou se parler ou regarder en silence autour d'eux. Ils passaient peut-être aussi plus de temps à détester leurs voisins, à enjoliver la réalité ou à d'autres activités moins reluisantes. Toujours est-il que les écrans nous ont fait changer. D'un point de vue quantitatif, ils occupent une place dans nos vies qui rivalise avec nos besoins naturels, dormir, manger et boire. La digestion n'est pas la même lorsque l'on mange devant un écran. Le sommeil n'est pas le même après 2 heures d'écran, etc., etc. Ce changement n'est pas seulement quantitatif, il est aussi qualitatif. Notre attention, habituée au changement, au choix et à l'inattendu, s'ennuie plus rapidement des objets non virtuels. L'habitude prise aux micro-décharges de dopamine entraîne une excitation permanente et un besoin constant de sollicitation. Nous sommes donc en général plus nerveux, moins attentifs et moins capables de concentration. Qu'en est-il de notre rapport à la réalité ? Quel lien entretenons-nous avec le monde ? Les réseaux et leurs algorithmes nous facilitent-ils l'accès à l'information ou au contraire nous éloignent-ils de la réalité pour nous tenir prisonniers de notre propre subjectivité ? Tout d'abord, nous pouvons constater que les algorithmes s'appuient sur des habitudes et des statistiques générales. Cela signifie que l'algorithme qui choisit l'ordre des vidéos qui défilent sur nos écrans construit sa sélection à partir de moyennes, de statistiques, c'est-à-dire de répétitions. Plus les consommateurs de tel âge, étant abonnés à telle chaîne, passent de temps devant tel type de vidéo, plus il y a de chances que vous, qui partagez toutes ces caractéristiques, aimez ce que l'algorithme va vous proposer. Cette intelligence artificielle n'invente rien. Elle construit ses propositions, qui apparaissent comme des choix, à partir de l'observation et du traitement de milliards de données. Que pouvons-nous en conclure ? L'algorithme ne laisse pas de place au particulier, à la singularité. Son fonctionnement encourage le conformisme et pousse la consommation vers les mouvements de masse. Les réseaux, d'une certaine manière, nous retiennent prisonniers de nous-mêmes en nous proposant ce que nous sommes déjà, en nous répétant ce que nous avons déjà entendu, en nous vendant ce que nous avons déjà consommé. Les réseaux nous proposent l'immobilisme. De plus, en prédécoupant l'information, la culture, les théories et en les sélectionnant par rapport à nos goûts, les réseaux nous donnent l'illusion de vivre dans une réalité adaptée à nos caprices, adaptée à nos points de vue, adaptée à nos jugements. Ils réduisent donc au maximum les frictions, l'adversité, l'incompréhension, l'ennui, l'indifférence ou encore le désaccord. À l'échelle sociale, cette ultra-adaptation de la réalité à la subjectivité fait apparaître des abîmes entre différentes parties de la population. Comment nous comprendre ou agir collectivement lorsque nous ne pensons pas le même monde ? Nous ne sommes même plus capables de nous entendre sur les évidences, sur les preuves ou sur la simple description des faits. Les écrans nous éloignent donc les uns des autres en tentant de nous séduire par la flatterie. En nous séduisant par nos goûts, en personnalisant notre accès à Internet, ils nous font voir le monde comme nous aimerions le voir. Ils s'immiscent donc entre mon jugement et celui des autres qui m'obligeait à une certaine retenue. Grâce à mon smartphone, je peux affirmer haut et fort mes opinions. L'algorithme qui me surveille cherche pour moi les arguments de ma connerie. Peut-être que la chose en soi, le noumène platonicien, n'a jamais existé. Peut-être bien qu'il n'y a que des phénomènes auxquels nous aurions accès par nos sens et notre propre réflexion. Mais la relation intersubjective nous oblige à penser une réalité à partir de laquelle je peux communiquer, échanger et aimer l'autre. Si nos écrans parviennent à nous faire croire que le monde répond à nos caprices, alors la réalité qui nous servait de point de rencontre disparaît petit à petit et l'autre s'éloigne derrière les remparts de plus en plus infranchissables de la contradiction, de l'erreur et de l'inconnu. Nous nous retrouvons la semaine prochaine et d'ici là, tentons de défendre un peu de réalité commune afin que nos rendez-vous puissent encore exister.
C'était Le Goût de penser, tous les samedis à 10h sur Web Radio, à réécouter et partager en podcast sur webradio.fm.